Bonjour Lola.
Bonjour.
Dans cette revue de presse, vous allez nous parler des journaux évidemment de ce dimanche, aujourd'hui consacré notamment à l'ensauvagement.
Oui, un mot beaucoup entendu ces dernières semaines et il apparaît dans la presse aujourd'hui avec deux définitions très différentes, voire opposées. Il peut d'abord faire référence à la violence comme dans le journal Le Parisien et on peut lire ce matin un grand dossier consacré à l'insécurité. Vendredi dernier, Emmanuel Macron reconnaissait devant les journalistes une banalisation de la violence causée par un cocktail de problèmes. Dans les pages du quotidien, on découvre des soignants, des professeurs, des maires et des policiers victimes d'agressions. Pour un professeur de maths, il faut redonner des moyens à l'éducation, revaloriser les enfants. Pour un maire, il faut surtout en finir avec un sentiment d'impunité. Il réclame pour ça une meilleure réponse pénale. Emmanuel Macron lui croit en la restauration du pacte républicain. Il s'exprimera sur le sujet vendredi prochain.
La violence, elle, a su l'approviser. Oui. L'apprivoiser, je vous mets ça dans l'ordre.
Oui, toujours dans Le Parisien, on découvre le passionnant portrait de Sabine Kéris, la doyenne des juges d'instruction de Paris, est aussi en charge de l'affaire Fourniret. C'est elle qui a obtenu les aveux du meurtrier concernant Estelle Mouzin. Ceux aussi de son ex-compagne Monique Olivier. Le journal l'a décrit comme très discrète, fuyant la lumière des projecteurs médiatiques. Tâche ardue quand on sait qu'elle a travaillé sur l'affaire du mur des cons. Celle aussi des accusations de viol sur des enfants centrafricains par des militaires de Sangaris. Humble, tenace et passionnée, la juge est admirée. Son secret avec Fourniret, elle refuse de le livrer, mais les autres racontent. Elle est humaine et considère que son interlocuteur l'est aussi. Pour comprendre le meurtrier, elle relit tout Dostoïevski, l'auteur favori du criminel. Elle l'écoute et se montre ferme aussi. Jouer avec un partenaire tel que vous, ça en vaut la peine, lui aurait même confié Fourniret. Mais face à la sauvagerie des actes du meurtrier, la juge Kéris en est fait une priorité. Elle veut à tout prix retrouver le corps d'Estelle Mouzin.
L'ensauvagement fait aussi les gros titres de la presse magazine.
Oui, mais on parle là d'un tout autre ensauvagement, celui qui consiste à redevenir sauvage et proche de la nature. Le vrai chantier à entreprendre, c'est le réensauvagement, peut-on lire dans Cosette. Le magazine revient sur le sujet en évoquant la chute de l'empire humain. Un recueil d'interviews sorti le 20 août où 10 figures de l'écologie échangent sur leur vision d'agir face à la crise climatique. On y trouve un paquet de conseils utiles qu'on n'a pas l'habitude de lire, promet Cosette. Parmi eux, la nécessité de bousculer nos imaginaires. La psychologue américaine Caroline Baker y propose par exemple d'organiser des groupes de deuil bienveillants. L'idée ? Échanger sur ce à quoi nous avons décidé de renoncer. La fast fashion, les voyages en avion, la viande, chacun j'imagine met là ce qu'il veut. Dans les autres conseils, il y a transmettre les connaissances et apprendre les gestes de survie dès l'école, ajoute Nicolas Hulot, l'un des interviewés. Eux ont peut-être suivi ces conseils. Ils ont tout quitté pour changer. Le magazine Oui Demain nous emmène en voyage dans la France qui sent sauvage. C'est le titre du dossier. Elle a vu éclore après le confinement des désirs de verre, peut-on y lire. Ces pages nous racontent ces citadins partis s'installer dans des villages normands de 300 habitants, mais avec tout de même coworking et co-living. Et si la conquête d'Internet au débit changeait le paysage, comme l'ont fait en leur temps le chemin de fer et l'autoroute, s'interroge le magazine. Il nous amène à la découverte de communautés préparant le monde d'après. L'association 0,6 Planète et son ambition de construire 50 éco-villages en 5 ans. Et puis, il y a Raphaël et sa vingtaine d'amis partis d'Île-de-France. Ils ont choisi Dompnac, 40 habitants, dans l'Ardèche, pour acheter une vallée de 50 hectares pour expérimenter et essayer de faire mieux.
Mais l'arrivée de nouveaux habitants dans les campagnes est parfois à double tranchant.
Le journal L'Union revient sur ce phénomène, le grignotage des terres agricoles. La Marne, par exemple, a perdu 746 hectares en 6 ans. Les Ardennes, 293 hectares. En fait, les communes transforment leur plan local d'urbanisme pour pouvoir construire. Exemple à Juniville, au nord-est de Reims. Le village reçoit une pression démographique très localisée, nous dit Le Quotidien. La mairie a donc transformé les terres agricoles en foncier. On a tout ce qu'il faut, une piscine, une école, un pôle santé, explique maintenant le maire. Pourtant, l'artificialisation des sols inquiète les agriculteurs. C'est de la terre qu'on ne retrouvera pas, résume l'un d'eux, sans compter les conséquences sur le ruissellement des eaux. Mais le problème est complexe. Dans les Ardennes, par exemple, les terres n'ont pas disparu à la faveur d'habitations, mais de zones d'activité ou industrielles. Et pour cause, ce département de l'Est perd chaque année des habitants. Alors attirer sans dénaturer, ce réensauvagement-là pourrait devenir le défi de ces prochaines années.
Voilà, on en parlera à Monsieur Darmanin sur cet ensauvagement remis au goût du jour par le ministre de l'Intérieur. Merci Lola Fourmi. Pardon de vous avoir pressé en début de chronique. Les auditeurs ne s'en sont pas rendus compte. On était à deux doigts de rater le rendez-vous. C'était un peu de ma faute. Merci et à samedi prochain.